avec cette première rencontre depuis plus de 2 ans hier à Tokyo entre les 3 chefs d'exécutif chinois, sud-coréen et japonais. Avant la rencontre Kim Jong-un et Donald Trump, donc le 12 juin, on l'a appris, le Japon s'inquiète d'être un des oubliés du processus. Bonjour Valérie Niquet.
Bonsoir.
Oui, bonjour, bonsoir. Depuis Tokyo, on ne sait plus, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes aussi Visiting Fellow à l'Institut Japonais des Affaires Internationales, donc de Tokyo. Alors, les deux premiers ministres japonais et chinois, Shinzo Abe et Lee Keqiang, et puis le président sud-coréen Moon Jae-in pour ce sommet à Tokyo, alors que le Japon a été tenu à l'écart du ballet diplomatique de ces dernières semaines. Le Japon, pourtant premier allié militaire des États-Unis dans la région, et Shinzo Abe qui, lui, s'était assuré de l'amitié de Donald Trump avec une première rencontre dès 2016, encore tout récemment. Ce qu'on voit, Valérie Niquet, c'est que cette fois, les acteurs asiatiques veulent jouer leur carte dans le processus, mais le Japon, c'est vrai, tient une place spéciale. C'est l'ancien colonisateur de la région et notamment de la Chine et de la péninsule coréenne. Il est en litige perpétuel aussi, là comme tous les autres, sur la question des îles. Et puis, plus tactiquement, c'était la deuxième cible nord-coréenne après la Corée du Sud, et on pourrait dire qu'il est passé en première position désormais si la situation venait à s'envenimer. Se pose donc la question de l'alliance avec les États-Unis, de sa permanence. Question de politique intérieure aussi pour Shinzo Abe qui a su mener jusque-là une remilitarisation et nourrir un certain renouveau nationaliste. Si on s'attache à la forme de ce sommet, le moins qu'on puisse dire c'est que il y a eu une effusion de symboles mais une déclaration plutôt timide, disons une déclaration commune de soutien à Panmunjom, mais pas plus. Le Japon notamment à des conditions plus sévères, hein, Valérie Niquet.
Alors, d'abord, ce qui était important pour le Japon, c'est effectivement d'accueillir ce sommet tripartite qui n'avait pas eu lieu, comme vous l'avez indiqué, depuis déjà 2 ans, en raison des tensions très fortes, en particulier avec la Chine, mais aussi à un autre niveau avec la Corée du Sud. Donc ça, c'était important pour Tokyo. Et Tokyo a réaffirmé, on a vu, la déclaration est assez consensuelle, entre guillemets, c'est-à-dire que les trois parties, évidemment, demandent la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais effectivement, effectivement, il y a des différences de position qu'on connaît, et notamment, peut-être pas tant avec la Corée du Sud, qui est aussi favorable à une vérification complète de cette dénucléarisation, mais avec la Chine. Vous avez parlé de la marginalisation du Japon, mais qui, elle aussi, s'est sentie très marginalisée à l'annonce de cette rencontre qui aura lieu bientôt entre Donald Trump et Kim Jong-un. Donc, le Japon, lui, est sur une position qui est en fait celle des États-Unis, en tout cas que les États-Unis réaffirment constamment, qui est que rien ne se passera s'il n'y a pas cette garantie de vérification totale et complète de la dénucléarisation de la Corée du Nord. L'autre élément, c'est que le Japon aimerait qu'on aborde des questions qui le touchent plus directement, vous l'avez mentionné, notamment celle des missiles de portée intermédiaire qui peuvent atteindre le territoire japonais et évidemment la Corée du Sud, mais Japon voudrait que ça fasse partie du deal et pas uniquement les missiles intercontinentaux éventuellement.
Bon, en tout cas, on voit bien qu'il y a plus ou moins d'intérêt à un accord plus ou moins complet et plus ou moins rapidement conclu, justement, relativement à ces sanctions. Pour revenir au Japon, alors c'est vrai qu'il y a cette demande qui concerne la question des enlevés, hein, des enfants qui ont été enlevés par les Nord-Coréens pour en faire, dit-on, des espions. Et puis surtout peut-être là la question stratégique de ces missiles intermédiaires. Est-ce qu'il y a une possibilité d'obtenir un accord sur ces missiles-là ?
Alors sur la question des personnes enlevées, ce qui est important, c'est que à la fois on ne peut pas considérer, contrairement à ce que certains peuvent parfois dire ici, que ça constitue un sujet majeur, sans doute, notamment au niveau des élections pour le soutien au Premier ministre Abe. En revanche, il y a des groupes de pression très importants, y compris dans l'entourage du Premier ministre, qui attachent une très très grande importance à cette question des personnes enlevées. Et c'est vrai que pour le Japon, il y a aussi une sorte de ressentiment, parce que pendant des années, le Japon a dénoncé ces enlèvements en suscitant l'incrédulité générale de la communauté internationale jusqu'à ce qu'ils soient confirmés par la Corée du Nord.
En 2002.
Pour le Japon, le fait que Donald Trump ait mentionné à plusieurs reprises, y compris lors de leurs derniers entretiens, l'importance, y compris pour les États-Unis, de cette question, en termes d'image pour la politique intérieure japonaise, c'est important pour le Premier ministre Shinzo Abe. Ceci dit, rien ne garantit que des avancées considérables soient accomplies en la matière, dans la mesure où on ne sait pas véritablement ce que sont devenues les dernières personnes au sujet desquelles le Japon n'a pas de nouvelles. Quant aux missiles intermédiaire, effectivement, c'est certain que c'est une préoccupation majeure pour le Japon, dans la mesure où, comme vous l'avez indiqué, le Japon à plusieurs reprises a été ciblé, entre guillemets, par la Corée du Nord comme une cible éventuelle de frappe avec ses missiles intermédiaires en cas de tension avec les États-Unis, même si on peut imaginer que c'est une perspective qui est quand même assez éloignée. Mais ceci dit, les missiles nord-coréens ont survolé à plusieurs reprises le territoire japonais. Donc du côté japonais, il est certain que pour des intérêts de sécurité stratégique au niveau régional, l'inclusion de ces missiles intermédiaires dans un accord éventuel avec les États-Unis est un élément extrêmement important. On ne sait pas pour le moment si les États-Unis iront jusque-là ou s'ils obtenaient véritablement cette garantie de dénucléarisation complète et vérifiable de la Corée du Nord et un abandon éventuel des programmes de missiles intercontinentaux, est-ce que les États-Unis souhaiteraient aller plus loin ou faire de l'abandon des missiles intermédiaires une condition à un accord signé? Là, il y a quand même aujourd'hui encore un gros point d'interrogation qui n'a pas été levé.
Et de même, est-ce que les Nord-Coréens seraient prêts à faire une telle concession et à se retrouver, pour ainsi dire, désarmés sur le plan des missiles? Puis, il y a une autre question qui se pose, peut-être un peu plus gênante pour le Japon, mais il y a certains analystes qui peuvent expliquer que le Japon a une défense antimissile inadéquate. Hein, 4 navires à Aegis, donc qui peuvent toucher les missiles en très haute altitude, 17 stations, mais qui ne couvrent pas tout le territoire, pas mal de villes, 30 qui n'ont pas de système d'alerte, un système lui-même peu efficace. Est-ce que ça, c'est une réalité également ?
Alors, c'est à la fois une réalité, mais le Japon, depuis déjà plusieurs années, s'est lancé dans un effort de défense beaucoup plus important que par le passé et qui porte notamment sur le développement des capacités de défense antimissile en coopération, évidemment, toujours avec les États-Unis, dans le cadre de l'accord de sécurité et de défense qui existe entre Tokyo et Washington depuis les années 60. Donc, le Japon fait beaucoup plus qu'auparavant des efforts en matière de défense, même si le budget militaire du Japon, autour de 50 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, reste extrêmement, très très inférieur, évidemment, à celui de la Chine qui atteint cette année à peu près 175 milliards de dollars, tel qu'il a été annoncé. Donc le Japon fait des efforts, mais évidemment il demeure aussi contraint à la fois par la Constitution et puis par un mouvement fondamental dans la population qui reste très attaché aux valeurs du pacifisme et qui accepterait sans doute difficilement certaines mesures qui iraient trop loin dans le sens, entre guillemets, d'une normalisation des capacités militaires du Japon. Et notamment, on a parfois parlé, y compris Donald Trump d'ailleurs pendant sa campagne électorale, du fait que le Japon pourrait se doter d'une capacité dissuasive indépendante, autonome, face aux menaces, notamment en particulier nord-coréennes. On en est extrêmement loin et politiquement, ce serait très très difficile pour Tokyo de le mettre en place.
Et justement, une information venant du ministère de la Défense ou de sources du ministère de la Défense, que le Japon chercherait à se doter de missiles air-sol longue portée, aussi bien américains que norvégiens, 500 et 900 kilomètres. Est-ce que ça, c'est vérifié ? Est-ce que ce serait un pas vers une militarisation plus offensive, effectivement, de cette armée japonaise, de cette autodéfense ?
Alors, ça fait partie du développement potentiel des capacités militaires qui a été mentionné par le Japon, et notamment un budget a été voté pour étudier la possibilité d'acquérir ce type de missile. La justification donnée à ce type de recherche serait aussi de se doter de capacités de défense des îles les plus lointaines mais appartenant au territoire japonais lui-même de l'archipel qui pourraient être soumises à des tentatives d'attaque ou d'offensive notamment de la part de la Chine, même si la chose n'est pas dite aussi ouvertement. On sait que le Japon a des contentieux, en tout cas la Chine revendique l'archipel des Senkaku ou d'Yao qui est administré par le Japon depuis 1894. Et donc, il y a des tensions territoriales très importantes maritimes avec Pékin, même si en ce moment, les choses sont plutôt à l'apaisement. Ils ont signé des accords, d'ailleurs, à l'occasion de cette visite de Lee Kuan-yew au Japon, notamment sur une sorte de ligne de téléphone permettant d'éviter que les tensions maritimes ou dans l'espace aérien ne dégénèrent entre les deux pays, ce qui a été le risque ces dernières années, même si, encore une fois, du côté japonais, tout ceci se fait avec une très très grande prudence, pour ne pas dire une très grande méfiance à l'égard de la stratégie chinoise dans la région. Il y a peu d'illusions au Japon sur les intérêts fondamentaux de Pékin, et se doter de missiles capables de contribuer à la défense de ces îlots, de ces îles éloignées de l'archipel, constitue en effet le moyen pour Tokyo de se doter de ses capacités sans directement prononcer des mots laissant entendre qu'il se doterait d'une capacité véritablement offensive, puisque en théorie, cette capacité n'est pas véritablement autorisée par la constitution japonaise. Même, il faut toujours que ça reste dans le cadre d'une posture exclusivement défensive.
Et merci beaucoup, Valérie Niquet.